Vous écoutez France Culture.
Troisième étape du Brumémix, place au documentaire. Tout de suite, Babel, Bombay. 19 millions d'habitants, et moi, et moi, et moi. Bombay est une ville où l'on fait corps avec la foule. Une foule qui est le reflet de toute l'Inde et qui parle toutes les langues en même temps. Direction Versova, dans la banlieue nord, à 30 minutes du centre. La mer, couleur égout, la plage façon poubelle, la température flirte avec les 33 degrés, l'humidité atteint 55%. Portrait de la ville avec Marie-Hélène Zera, urbaniste à l'Institut de Recherche et Développement.
Bombay, il faut bien voir que c'est un peu, pour moi, je pense que c'est une ville qui s'est construite un peu contre nature. C'est-à-dire que c'est à la fois un site privilégié, puisque évidemment ça a une ouverture sur l'océan, donc c'est la ville du commerce, et le commerce maritime au départ, mais c'est aussi une ville qui était 7 petites îles de pêcheurs, avec des hameaux de pêcheurs, une communauté qui existe encore, et que les Anglais ont décidé de développer. Donc ils ont fait des travaux, de très gros travaux publics. Ils ont relié ces 7 îles qui forment aujourd'hui ce qu'on appelle le Island City, qui est la ville touristique, la ville où vous irez si vous allez vous promener, qui est une ville donc du coup avec une architecture très britannique. On voit bien l'emprise coloniale, c'est la ville coloniale en toute son imagerie en Inde, ça c'est assez évident. Et puis après, évidemment, ça s'est déplacé vers le nord avec la grande île de Salsette, qui est le début des banlieues. Donc vous imaginez que votre triangle s'élargit pour aller vers la terre du Maharashtra. Et donc vous voyez bien que c'est une ville qui est finalement extrêmement petite en fait, de taille par rapport à sa population. Donc qui est une ville avec des fortes contraintes environnementales, puisqu'elle peut être soumise à des inondations, enfin, il y a des gros problèmes environnementaux. Et puis c'est une ville où le bâti est très vertical par rapport à d'autres villes indiennes, puisqu'il y a à peu près, je sais pas, sur la ville, 12 millions, 13 millions d'habitants sur une petite surface par rapport à d'autres villes indiennes. Donc ça, c'est la première image qu'on peut avoir. Et puis l'autre image qu'on a évidemment de Bombay, encore une fois, c'est l'imaginaire qu'on a de Bombay, c'est des grandes tours et puis des bidonvilles. Donc ça, c'est une réalité. Sachant que ce n'est pas les grandes tours de Chicago ou de Sao Paulo, enfin c'est des tours un peu à l'indienne, et puis pas très hautes puisqu'il y a une limitation sur le bâti. Et que là encore, les bidonvilles, en fait, c'est un terme générique mais qui englobe tout un tas d'habitats. Donc vous avez à la fois des sortes de bidonvilles qui peuvent être presque comme des petits villages urbains qui sont bâtis, et puis vous avez vraiment des bidonvilles qui sont construits de tôles, de papier, enfin qui sont vraiment dans un état assez dramatique. Mais vous avez aussi à Bombay comme des petits villages, et vous avez des anciens quartiers qui sont les quartiers des pêcheurs par exemple, donc les quartiers des Koliwala, donc qui reflètent une architecture très spécifique, un peu villageoise, etc. Donc en fait Bombay c'est vraiment la ville, c'est très très mélangé, et puis surtout ce qui est très différent, je pense assez différent d'autres villes indiennes, c'est que tout est à côté, c'est-à-dire qu'il y a la mixité est vraiment très forte. Par rapport, évidemment, si on pense aux villes sud-africaines, ou si on pense aux villes brésiliennes, aux villes d'Amérique latine. Et c'est encore une ville qui spécifiquement a, je pense, cette mixité à la fois, vous descendez de votre tour, et en bas, vous avez quand même un bidonville au pied de votre maison.
Il y a eu aussi des tentatives de créer des villes nouvelles. Navi Bombay, est-ce que ça marche? Est-ce que ça désengorge Bombay, la ville telle qu'on la connaît ou pas?
Alors, New Bombay, ça avait été conçu, je pense, à peu près dès les années 60, il me semble. Et puis, le développement dans les années 70. Donc, effectivement, c'est de l'autre côté de la mer d'Arabie. Mais ça, au départ, ça n'a pas très, très bien marché. Et puis, en fait, en ce moment, il y a une grosse croissance de Navi Bombay. Donc, ça, c'est la ville planifiée de l'autre côté de la mer d'Arabie qui devrait être reliée logiquement par un pont. Mais encore un projet d'infrastructure qui met plusieurs années à démarrer et qui aurait dû être fini là maintenant et qui a toujours pas démarré. Donc il y a un problème de désenclavement, si vous voulez. C'est encore enclavé, donc c'est en train de grandir, mais pas vraiment. Et puis vous avez le long du nord, c'est le long de ce triangle-là. Si vous continuez vers le nord, vous avez toute une zone qui s'appelle Vasai Virar. Et là, c'est très contrasté par rapport à New Bombay ou même à Thane, qui est au nord-est, qui sont des villes relativement planifiées, enfin... qui ont à la fois évidemment des quartiers pauvres et des quartiers riches, mais ce sorte de couloir là au nord-ouest, là c'est vraiment des villes dortoirs, c'est assez, enfin il y a vraiment des endroits extrêmement déprimant. On imagine bien l'Angleterre du 19e siècle. Et là, ce n'est pas du tout planifié. Et c'est vraiment une zone qui commence à grandir très fortement parce qu'évidemment, les gens font l'aller-retour pour venir travailler à Bombay. Et qui a des conditions d'eau, d'électricité, d'assainissement, d'habitat qui sont nettement inférieures au reste de la ville.
C'est quoi la richesse? Elle est fondée sur quoi ici?
Ben, Bombay, c'est une ville riche et c'est une ville pauvre, on est d'accord. C'est une ville à la fois pauvre et qui va rester pauvre pendant plusieurs années, à mon avis. Et puis, c'est à la fois une ville riche, c'est la ville du commerce quand même, Bombay. C'est une ville commerçante qui s'est développée sur les usines, sur le commerce du textile, sur le commerce de l'opium. Évidemment, c'est quand même l'opium qui a fait la richesse de Bombay à la fin du 19e siècle. Et puis, c'est une ville qui fait preuve d'une grande innovation, flexibilité, et donc des entrepreneurs et une culture industrielle assez forte, mais qui a connu à la fin des années, là si on parle du passé récent, fin des années 90, vraiment une crise avec une baisse de sa croissance économique et qui est donc essaie un peu de regagner, justement qui met beaucoup d'emphase sur les questions d'infrastructure parce que par rapport aux villes du sud comme Bangalore, Chennai, Hyderabad, qui est un peu perdu de terrain, disons. Mais c'est avant tout une ville commerçante et puis une ville qui avait une vraie tradition industrielle qui essaie de se reconvertir vers l'industrie de services.
Quiconque survole Bombay et voit la ville d'avion, en écartant le pouce et l'index selon un angle de 30 degrés en à la forme de son plan, doit admettre qu'elle est magnifique. La mer la baigne de toutes parts, des palmiers bordent les rivages, les flots reflètent la lumière du ciel. Bombay possède un port et des anses, des criques, des rivières et des collines. Vu d'en haut, ses possibilités subjuguent. À terre, c'est différent. Le vacarme de la circulation, d'autant plus assourdissant qu'on roule vitre ouverte dans ce pays chaud, l'odeur de poisson pestilentiel mis à sécher à l'air libre, l'inévitable contact moite avec tous les corps bruns qui se pressent dans les rues, le goût cuisant du chutney à l'ail généreusement tartiné sur le vada pav avalé à l'arrivée.
Beaucoup de gens disent qu'en réalité, la langue de Bombay est un mélange de toutes les langues de l'Inde, plus l'anglais, et peut-être aussi quelques mots de français. On l'appelle le Hinglish, H-I-N-G-L-I-S-H, qui est parlé par la plupart des gens et que très peu de personnes en dehors de Bombay même ne comprennent. Je sais que lorsque je vais au nord et que je parle dans ce qu'on appelle le hindi de Bombay, personne ne me comprend. Mon mari, qui vient de cette partie-là du pays, doit tout le temps me rappeler à l'ordre. Parle correctement en hindi.
Celle qui parle, c'est Sharada Dvidevi, historienne et auteure du livre « Bombay, the cities within », les villes à l'intérieur de la ville. Le lieu, c'est le Samovar Café. Architecture victorienne, beau restaurant, enfants couchés sur les trottoirs. À l'intérieur du café, des touristes, des couples, au-dessus de leur tête, des ventilateurs qui tournent à pleine vitesse.
Bombay is a city of dualities.
Bombay est une ville de dualité. Tout a une contrepartie. Si vous avez des bidonvilles, vous avez des gratte-ciel. Là où il y a de la pauvreté, on trouve tout à côté de la richesse. Nous avons donc voulu faire ressortir cet aspect de la ville également. De ce fait, j'ai appelé mon livre « Bombay, ville à l'intérieur de la ville ». Parce que Bombay n'est pas seulement une ville. Elle s'est construite à partir d'un bourg et comporte de nombreuses couches. Comme un palimpseste. Tout y coexiste côte à côte. Il y a donc plusieurs villes dans une seule.
Et donc ici nous sommes à Bombay, à Varsova, à peu près, je sais pas, je dirais 30-35 km du centre-ville de Colaba, sur la côte ouest, sur la plage, juste après Juhu, le quartier très connu des stars de Bollywood. Donc c'est un banlieue qui se développe très rapidement. Parce qu'elle est face à la mer, sur les banlieues nord, et que c'est là que va démarrer la première ligne de métro à Bombay.
Ils ouvrent quand ?
C'est une question assez difficile, c'est-à-dire que officiellement en 2010, officieusement on ne peut pas savoir. Alors je pense qu'ils ont déjà quelques mois de retard après quelques mois de démarrage, donc en tout cas les travaux ont démarré, vous avez vu ça tout près, là, vous êtes passé devant je pense. Donc 2010-2011. Alors la ligne de métro elle part d'ici, donc Varsovie. Faut imaginer que Bombay c'est comme un triangle. Donc on est sur la partie ouest du triangle nord-ouest. Et entre Bombay a deux grandes lignes de chemin de fer et deux grandes routes du nord au sud, mais il n'y a pas de lien est-ouest. Donc cette ligne elle part du nord-ouest Varsovie et elle va au nord-est à Gatkopar. Et c'est, l'idée c'est de créer un vrai lien entre l'est et l'ouest pour que les gens n'aient pas besoin de perdre deux heures pour faire ce trajet.
La population du Grand Bombay, actuellement estimée à 19 millions d'habitants, est supérieure à celle de 173 pays du monde. Si Bombay était un pays, il se classerait au 54e rang mondial. En 1990, la densité de population moyenne de l'aire urbaine de Bombay s'établissait à 4200 personnes au kilomètre carré. Dans certains quartiers du centre, elle approche actuellement les 400 000 personnes. C'est en vain qu'on chercherait ailleurs sur la planète un endroit où se massent autant d'individus. Ils ne se répartissent évidemment pas de façon homogène sur l'île. Les deux tiers s'entassent sur 5% à peine de la superficie totale, tandis que le tiers des plus riches, ou des mieux protégés par les baux locatifs, monopolisent les 95% restants.
Bombay a réellement commencé par la réunion de 7 îles. C'était marécageux, occupé uniquement par les pêcheurs. Et c'est ainsi qu'elle est restée presque jusqu'au XIIIe siècle. 12e ou 13e siècle, personne n'est certain de la date. Lorsque Raja Bhimdev, qui est censé être un Rajput, est arrivé soit du Gujarat, soit du Rajasthan. Là encore, personne ne le sait. Il est arrivé à Bombay, y a installé sa capitale sur une île appelée Mahim ou Maikawati. Il a introduit diverses réformes administratives sur ces îles, y compris des réformes judiciaires. Il a mis en place des tribunaux, des temples. Il apporta son armée et avec lui est arrivée à Bombay la première génération d'immigrants. Il y avait beaucoup de prêtres, ce que l'on appelait la communauté Patari Prabhu, probablement constituée par ses assistants. Il régna jusqu'à ce que les sultans du Gujarat le remplacent sur les îles vers le 14e ou 15e siècle. Au 16e siècle, les Portugais occupèrent les îles après avoir vaincu les sultans du Gujarat. Mais ils avaient leur siège administratif à Bassin, qui se trouve dans la banlieue nord. Et une partie des îles de Bombay était gérée par des gouverneurs qu'ils avaient nommés. Les Portugais, eux, ne développèrent pas du tout Bombay. Mais à ce moment-là, la Compagnie des Indes orientales britanniques commençait à accroître son influence en Inde. Ils gouvernaient à partir de Surat, au Gujarat, où se trouvait leur principale usine. Ils se rendirent compte que ces 7 îles représentaient un potentiel énorme pour y développer le commerce. Car il y avait un merveilleux port abrité et une magnifique baie naturelle. Les Britanniques réalisèrent qu'ils avaient intérêt à transformer ces îles en une importante ville portuaire. Le hasard fit que les Portugais offrirent ces 7 îles aux Britanniques lorsque le roi Charles II épousa Catherine de Braganza, la princesse portugaise. C'est peut-être la première ville qui a été donnée en dot pour un mariage. Les Britanniques n'étaient pas venus en grand nombre. Il n'y avait que la Compagnie des Indes et leurs commissionnaires. Mais ils prirent conscience que pour que cette ville se développe, il fallait y attirer les gens. Il y avait un gouverneur appelé Gerald Angier qui arriva dès les premiers temps. Il incita les habitants des zones côtières et de l'arrière-pays à venir s'installer. Ce qu'il leur promit, c'est qu'ils seraient totalement libres de commercer et qu'ils pourraient exercer leur religion en toute liberté, ce qui n'était pas le cas avec les Portugais ni les musulmans. Les Portugais faisaient du prosélytisme et un grand nombre de conversions eurent lieu à ce moment-là. Il en va de même des sultans du Gujarat qui convertirent à l'islam les populations qui étaient arrivées avec Raja Bhimdev. Grâce à ces incitations offertes par Gerald Angier, beaucoup de commerçants du Gujarat et du Maharashtra et même du Rajasthan affluèrent. Au fur et à mesure que le bourg se développait et que le commerce prospérait, de nombreux immigrants arrivèrent de l'étranger. Plus tard, il y eut les Juifs de Bagdad avec la famille Sassoon et il y avait aussi beaucoup d'Arméniens. Bien entendu, les Britanniques étaient très présents. À ce moment-là, les Portugais se rendirent compte qu'ils avaient abandonné une excellente ville. Et donc, les Français, les Hollandais et les Portugais menacèrent de reprendre les îles. La première chose que les Britanniques furent obligés de faire fut de les fortifier.
Ils commencèrent la fortification autour d'un petit manor house.
Ils commencèrent la fortification autour d'un petit manoir qui avait été occupé par un médecin portugais qui avait fait beaucoup de recherches sur la botanique indienne. Ils commencèrent donc par son manoir qui se trouvait sur la plus grande des sept îles, juste au-dessus du port. C'est là qu'ils construisirent un château, puis le fortifièrent en ajoutant des douves tout autour. Voilà la genèse du fort de Bombay. Cette compagnie des Indes orientales se mit à commercer très vite. Et ils invitèrent une famille du Gujarat qui excellait à la construction de navires à venir construire un chantier naval. Les Britanniques se rendirent également compte que s'ils voulaient que cette commune se développe, en plus de les peupler, ils devaient fusionner ces sept îles. Ils commencèrent donc à reconquérir des terrains sur la mer, à construire des passages et à combler l'espace entre les îles. Vers le 19e siècle, les travaux furent terminés et au lieu de sept îles, on avait une ville insulaire, qui était très verticale et très étroite en bien des endroits. Au fur et à mesure que le commerce s'y développait, un nombre croissant d'immigrants arrivait à Bombay. La ville se développa donc en ville très prospère et cosmopolite. Les Britanniques apportèrent les trains. Ils furent tout d'abord introduits à Bombay ainsi que le télégraphe. Même si la capitale de l'Empire britannique était à Calcutta, parce qu'ils se rendirent compte que c'était le port le plus important pour le commerce. Beaucoup de biens étaient importés ou exportés.
The largest amount of export items were cotton and opium.
Mais la majeure partie des marchandises était l'opium et le coton. Bien peu de gens de nos jours sont prêts à admettre que les fortunes faites à l'époque provenaient de l'opium.
Bombay aussi atteint sa limite. En 2015, la ville comptera 23 millions d'habitants. Sa population devrait diminuer de moitié, mais non, elle double. Pour chaque personne croisée aujourd'hui dans la foule qui encombre la rue, il y en aura une de plus demain. Et année après année, Bombay devient un peu plus la ville de tout le monde au fur et à mesure que l'espace extérieur rogne sur l'espace intérieur. Tous les voyageurs de ce train cultivent un style particulier. Une façon de se coiffer comme ci plutôt que comme ça. Un talent original pour sculpter des coquillages, un souffle assez puissant pour gonfler une bouillotte jusqu'à la faire éclater. Une manie, une excentricité extrapolée en théorie de la personnalité. Rien de plus facile à mon avis que d'engager la conversation au milieu d'une foule à Bombay, car ici chacun a des opinions très personnelles, voire farfelues.
Everything went off well for the British.
Tout se passa bien pour les Britanniques et en 1857, il y eut ce qu'on appela la rébellion des Sipoys. Les Indiens l'appellent la guerre de l'indépendance de l'Inde. C'est à ce moment-là que la couronne britannique prit le pouvoir en Inde en s'appuyant sur la Compagnie des Indes orientales. Après ça, les choses changèrent beaucoup. Comme je l'ai dit, il y avait des trains. De nombreuses usines textiles avaient été construites, l'administration du port avait été mise en œuvre, ainsi que la corporation municipale de Bombay. Et comme la population continuait d'augmenter, la ville commença à s'étendre hors de l'île, dans l'arrière-pays situé au nord, que l'on appelle aujourd'hui la région métropolitaine. Ça, c'était dans les années qui ont précédé l'indépendance. Pendant l'indépendance, un très petit nombre des tragédies qui se déroulèrent en Inde eurent lieu à Bombay. Mais la ville vit arriver beaucoup de réfugiés venant de l'ouest du Pakistan. Encore une fois, la population grandit énormément. Et étant donné qu'il y avait un réseau ferroviaire, la population put migrer plus au nord.
Bombay, c'est 19 millions d'habitants, banlieue comprise, 437 km² étirés sur 60 km. Et si on parle du transport dans les gares, il y a 6 millions de personnes qui prennent le train tous les jours, qui font banlieue, Bombay, Bombay, banlieue. Et sur ce nombre, il y a 4000 personnes qui perdent la vie tous les ans dans des accidents de train. À part ces chiffres, quel est l'esprit de Bombay ?
À une époque, 60% de la population de la ville vivait dans des bidonvilles. De nos jours, ce chiffre est un peu inférieur. Je pense qu'il est plutôt de 50%, ce qui n'est déjà pas brillant. Il y a très peu de planification dans cette ville, malgré la pression de la population. Prenez par exemple les transports. L'accent est toujours mis sur le bien-être des automobilistes et non sur l'amélioration des transports publics. Un pont qui surplombe la mer est prévu entre un quartier appelé Seudi, toujours dans la ville insulaire, et l'autre côté du port. Il y aura 8 voies en tout pour les voitures, mais pas une seule voie de chemin de fer pour le public.
Alors,
bien qu'il y ait beaucoup de plans de modernisation, certains de nos politiciens insensés ont même dit qu'on allait créer un nouveau Shanghai. Comment pourrait-on le faire alors qu'il y a tant de pauvreté ici et une telle dualité ? Il y a la démocratie, mais absolument aucune planification, quelle qu'elle soit.
En 1996, le nom de la ville Bombay est passé à Mumbai à cause du parti politique Shiv Sena, donc le parti ultra-hindouiste. Est-ce que dans ce changement de nom, il y a autre chose qui a changé dans la ville?
Lorsque le nom de Bombay a été transformé en Mumbai, sans aucune raison valable, ce n'était qu'un jeu politique, je crois que la personnalité même de Bombay a changé. Ce qui s'est passé, c'était au nom d'une politique communautaire qui favorisait les habitants du Maharashtra. On avait un système absolument merveilleux à Bombay, par lequel, si vous parliez anglais, vous appeliez la ville Bombay. Si vous le faisiez en hindi, ça devenait Bombay. Et si vous parliez Marathi ou Gujarati, alors c'était Mumbai. D'ailleurs, le nom Mumbai était le nom d'origine d'une seule des îles. Et on l'a appelé ainsi d'après le surnom de la déesse des pêcheurs, les Koli, Mumba Devi. Bombay a considérablement changé depuis qu'on l'a rebaptisé Mumbai. La personnalité d'origine est toujours là. La résilience de la population existe toujours, comme on a pu le voir lors des attentats terroristes de novembre 2008. Mais ce que les politiciens sont parvenus à faire, c'est à diviser cet esprit cosmopolite unifié au sein duquel toutes les communautés cohabitaient tranquillement au fil des siècles. Maintenant, on essaye de créer des divisions entre les hindous et les musulmans. Entre les musulmans, on essaye de diviser les chiites et les sunnites. Et dans la communauté hindoue, on crée des divisions géographiques. Les habitants du Gujarat contre ceux du Maharashtra, ces derniers contre ceux du Bihar, les gens de l'Uttar Pradesh ou du Sud. Et c'est complètement artificiel. Ça ne favorise ni la prospérité, ni le développement de la ville.
La bataille de Bombay est la bataille de l'individu contre la multitude. Cette bataille de l'homme contre la métropole n'est jamais que le prolongement à l'infini de la lutte de l'homme avec le démon, combat à poursuivre sans relâche au risque d'être anéanti. Une ville est une agglomération de rêves individuels, la somme des rêves de la foule.
En 1993, 92, 93, il y a eu des émeutes ici sanglantes entre les hindous et les musulmans. En 2006, il y a eu des attentats. En 2008, plus récemment, il y a eu des attentats. Est-ce que Bombay a gardé les cicatrices de ces événements dramatiques ?
There are two opinions on this. When the 1993 communal riots happened,
il y a deux avis différents sur ce sujet. Lors des émeutes de 1993, après la démolition de la mosquée Babri Masjid, les gens avaient très peur.
But I remember that at that point in time, I walked around many of the Muslim areas.
Mais je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai traversé de nombreux quartiers musulmans et j'ai vu que les voisins s'entraidaient. Je me suis rendue dans un endroit appelé Lal Bagh, baptisé d'après le nom d'un saint musulman qui s'appelait Lal Shah Sahib. Et là, j'ai rencontré beaucoup de personnes, des musulmans, qui étaient revenus à Lal Bagh après avoir fui la ville. Nombre d'entre eux m'ont raconté comment leurs voisins hindous les avaient recueillis, les avaient aidés à s'échapper et à se réinsérer lorsqu'ils sont revenus. Il ne s'agit pas seulement d'un cas unique, il y en a eu énormément de semblables.
Je pense que ce qui s'est passé, c'est que certains de ceux qui étaient very biased.
Mais je pense que ce qui s'est passé est que ceux qui avaient beaucoup de préjugés ont cessé de louer des appartements, des maisons ou des chambres à des locataires musulmans. C'est arrivé, ça ne fait aucun doute. Néanmoins, je pense que c'était une phase passagère. Beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi sur ce point, parce que si l'on regarde ce qui s'est passé lors des attentats de novembre 2008, il n'y avait pas de division de caste, de religion ou géographique. La ville entière était ensemble. La colère visait les politiciens, ceux qui étaient au pouvoir et qui les avaient si cruellement déçus. Il n'y avait que 10 terroristes, et regardez le chaos qu'ils ont provoqué en l'espace de 2 ou 3 jours. C'est dans ces circonstances, et par le biais de la tragédie de la terreur, qu'on s'est réjoui de l'unité du peuple. Donc je ne pense pas que ces cicatrices restent très longtemps, parce que Bombay a toujours eu une tradition de bonne entente entre voisins.
Vous êtes en retard sur l'horaire pour aller travailler à Bombay. Quand vous arrivez à la gare, le train quitte le quai. Vous courez pour attraper les wagons bondés et des mains innombrables se tendent vers vous, comme autant de pétales pour vous hisser à bord. Vous courez le long du train, des mains vous attrapent, des pieds s'écartent pour laisser aux vôtres quelques centimètres au bord de l'ouverture. Ensuite, à vous de vous débrouiller. Tout en vous retenant au cadre du bout des doigts, vous prendrez garde à ne pas trop vous pencher en arrière, au risque d'être décapité par un poteau planté trop près des voies. Certes, mais réfléchissez à ce qui vient de se passer. Entassés dans des conditions jugées inadmissibles pour le bétail, leurs chemises déjà trempées de sueur dans le compartiment mal ventilé où ils sont comprimés depuis des heures, vos compagnons de voyage ont néanmoins compati à votre sort, compris que si vous ratiez ce train, votre patron allait vous hurler dessus, retirer une journée de votre paye, et ils ont réussi à faire de la place, là où il n'y en avait pas pour prendre encore quelqu'un avec eux. À l'instant du contact, aucun n'a songé à se demander si la main qu'il fallait saisir appartenait à un hindou, un musulman ou un chrétien, à un brahmane, à un intouchable. Il importait peu que vous soyez un natif de la ville ou un migrant débarqué le matin même, un bombayite, un mumbayite, un new-yorkais. Vous vouliez aller dans la ville de l'or et seul cela comptait aux yeux de vos compagnons. Allez, monte, camarade, on va s'arranger.
James Stevenson est américain. Il est propriétaire d'un appartement dans le quartier de Mahim, une enclave musulmane dans le nord de Bombay. Au pied de son immeuble, à la façade décrépie par la mousson, un village de pêcheurs, des coolies, les premiers habitants de la ville. Son balcon donne sur la mer, pollué comme ailleurs. Dans le ciel, des nuées de corbeaux. James vit en Inde depuis 40 ans.
C'est-à-dire que je suis venu en 69, je pense, première fois, et puis 71, je suis venu avec une bourse d'université comme ça, et je suis resté pendant d'années. Je suis rentré en Europe, aux États-Unis, travailler entre temps et fait mes études, et je suis revenu m'installer en permanence en, il y a 12-13 ans à peu près.
Pourquoi?
Pour faire la musique. J'avais commencé ça il y a si longtemps, il y a 71. Et j'ai continué toujours. Ça m'intriguait et ça m'intéressait. Et finalement, c'est devenu ma vie, quoi, à peu près. Je fais ma pratique comme tout le monde, quoi. Il faut travailler. Et j'ai mes gurus, mes profs, quoi. J'en ai deux merveilleux en ce moment. Et j'y vais chez eux 5 fois par semaine pour les leçons. Et à part ça, dans la journée, je fais ma musique. C'est le chant classique du Nord, hindoustani. Et je fais dans le style khayal. C'est-à-dire que c'est la musique classique, que ce n'est pas la musique populaire, quoi, que, commerciale. Mais il y a beaucoup d'auditeurs en Inde, beaucoup de gens intéressés par ça. Les gens, c'est vrai qu'ils sont un peu plus côté cultivé, sophistiqué, on peut dire. C'est surtout ici à Bombay où c'est vraiment le siège de cette musique depuis assez longtemps maintenant. La musique classique ici en Inde, c'est la musique vocale. L'instrumental, c'est vraiment, ça n'a pas d'importance. Et, alors, cette musique, c'est aussi dans la langue de Braj Bhasha. C'est pas hindi, en fait. C'est la langue de vers Mathura, Vrindavan. C'est près de Delhi, c'est une région. Cette langue, c'est une langue très poétique qui va très très bien avec la musique, qui donne beaucoup de liberté. C'est très, très belle, cette langue. Et alors, les gens ici, par exemple, le connaissent pas, mais c'est proche à hindi. J'ai passé tellement de ma vie adulte ici dans ce pays. Si je compte les années en total, ça fait le plus grand pourcentage. Et comme je parle la langue ici couramment, je me sens partie de ce pays. C'est-à-dire à Bombay aussi, il y a cette qualité que je n'avais trouvée aucun autre endroit, que tout le monde ici vient d'ailleurs. Et nous, on est accepté comme ça, qui n'est pas le cas dans les autres villes en Inde.
Sortie dans la rue par un beau matin clair et tout de suite avalée par la marée humaine. Elle m'écrase, me prive du sentiment d'être unique, mais pour finir, elle est pourtant réconfortante, car elle illustre à merveille le sentiment d'appartenance. Cette masse d'individus disparates qui se dirigent vers la grande horloge de Churchgate, c'est moi. Ils sont ma chair et mon sang. Je ne me fondrai pas dans la foule car je me suis constitué à partir d'elle. Et si je la comprends bien, elle finira par se fondre en moi et la multitude ne fera plus qu'un. Un moi unique aux multiples splendeurs.
Grant Road, quartier central de la ville. Tout au long d'un trottoir, l'immense Bombay Hospital. Établissement de soins, mais aussi indicateur pour se retrouver. Quand on cherche une adresse dans le quartier, on dit à gauche, en face ou derrière le Bombay Hospital. À droite de l'hôpital, un ensemble d'habitations. Ce sont des familles hindoues de haute caste, surveillées par un watchman, un gardien patibulaire. Sundindra Bhumik, venu du Bengale, loue une pièce pour donner des cours de chant. James est son élève. Pour donner la mesure, le son lancinant de sa tempura.
Je viens d'une famille très pauvre, une famille de paysans. Et mon père a étudié jusqu'au niveau licence. Il n'a pas eu son diplôme. Il est mort en 1945, lorsque je suis né. Ma mère a décidé alors que tous ses enfants devraient aller à l'école. Nous étions 4 plus 3, 4 garçons, 4 frères et 3 sœurs. Voilà, mes frères étudiaient à l'époque. Et ils ont interrompu leurs études pendant 3 ans. 3 ans, ils se sont arrêtés. Et à l'époque, nous habitions dans ce qui allait devenir le Bangladesh. Et lors de la partition, nous sommes venus de ce côté-ci du pays. Et puis nous avons tenté de nous installer. Et puis nous avons repris nos études. Bien sûr, nous marchions bien dans les études. Un de mes frères est devenu ingénieur. Il a obtenu sa maîtrise. Une de mes sœurs a eu une maîtrise en ingénierie. Elle a étudié l'ingénierie. Moi aussi, je suis devenu ingénieur. Mais ce qui est arrivé quand je suis allé étudier à l'Institut de technologie de Kanpur, qui est censé être l'un des meilleurs instituts de technologie en Inde, il y a quelque chose qui s'appelle le bizutage. Et pendant le bizutage, on a découvert que je savais chanter. Chanter, bien sûr, c'était quelque chose de tout à fait normal dans notre famille. Depuis l'enfance, on avait l'habitude de chanter, de jouer, toutes ces choses-là. Moi, je ne savais pas que je savais chanter. Pas spécialement. Mais on m'a demandé de chanter. J'ai chanté, ça a plu. Et ça a mis fin à mon bizutage. Et là, je me suis dit, ah bon, c'est si important. Si vous voulez, c'était comme le point de départ de ma prise de conscience que je savais chanter. J'ai pris part au festival de printemps, au concours de chant, et je gagnais des prix. J'interprétais des bandish. Et parfois, une de mes sœurs éloignées prenait des leçons. Et pendant les vacances, j'avais l'habitude d'aller chez elle quand son professeur venait lui donner des cours. Et j'apprenais quelques petites choses. Je jouais un peu de tabla, tout seul. J'avais appris. Et puis je m'entraînais. Et je participais au concours et je gagnais les prix. Ça a commencé comme ça, mais nous étions très pauvres. Je ne pouvais pas me payer les cours de musique. Alors, après avoir fini l'Institut de technologie, quand j'ai commencé à étudier à l'Institut de gestion, c'est là que j'ai commencé à apprendre. C'était à Calcutta. C'était le début de ma véritable formation formelle. J'étais un étudiant très sérieux. Parce que je voulais apprendre la musique. Et pour la musique, j'ai sacrifié quelques emplois, de bons emplois, parce que je ne voulais pas quitter Mumbai, Bombay à l'époque. Donc j'ai appris pendant environ 9 ans. Je faisais quelques petits trucs par-ci par-là. Qui ne réussissait pas. Et puis à la fin, j'ai pris la décision de ne faire que de la musique. Donc j'ai demandé la permission à ma famille de pouvoir faire de la musique. Je leur ai dit, je m'assurerai de votre bien-être, quoi qu'il arrive. Je suis venu ici avec un petit job, beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. J'étais prêt à ce moment-là à surmonter tout cela. Je l'ai fait. Et j'ai servi le gourou Bowen pendant 11 ans, puis je l'ai quitté. Et puis je me suis mis à mon compte. J'enseignais l'interprétation. Et bon, il n'y avait pas beaucoup de concerts. Peut-être quelques concerts par an. Un peu de radio, un peu de ceci, un peu de cela. Mais je me concentrais surtout sur l'enseignement. J'avais pas mal d'élèves qui se débrouillaient bien. J'ai enseigné quelques élèves qui ont acquis une bonne renommée également dans l'industrie du film. Et j'en suis particulièrement fier.
All my gurus have given me a lot of affection.
tous mes gourous m'ont donné beaucoup d'affection et d'amour. J'essaye de faire la même chose avec mes propres élèves. Je suis plutôt patient avec mes élèves. Et je fais en sorte que, malgré mes propres carences, qu'ils n'en souffrent pas. J'essaie de garder cela toujours à l'esprit pendant que j'enseigne. On prend de l'argent. Oui, je prends de l'argent. Mais c'est pour ma survie. Ce n'est pas pour devenir quelqu'un de riche, non. Mais la musique, c'est une mission. Comme la mission de mes gourous était de bien enseigner, d'élever leurs élèves, de faire progresser leurs élèves dans la musique. C'est la même mission que j'ai à l'esprit, le même but lorsque j'enseigne. J'ai aussi beaucoup de petits élèves, de jeunes enfants que j'ai pris récemment, il y a 3 ou 4 ans. Je me suis dit que si je pouvais au moins préparer 2 ou 3 bons musiciens, j'aurais accompli ma tâche. Je m'implique dans la musique, dans l'émotion qu'il y a dans la musique. Vous voyez, la musique, ce n'est rien d'autre que de l'émotion. Pourquoi les gens chantent-ils? Parce qu'ils éprouvent des émotions qu'ils veulent exprimer. Lorsque je chante, j'essaie de voir quelle est l'émotion particulière qui se trouve dans cet air, dans cette mélodie. J'essaie de ne faire qu'un avec cette émotion particulière, avec ce sentiment. J'essaie de faire ressortir cette mélodie sous sa forme la plus appropriée. C'est comme les chansons de Bollywood, ces chansons des films. Vous savez, on peut écouter la cassette et la copier. Et c'est tout. Mais un raga ne peut pas s'apprendre comme ça. Chaque phrase particulière du raga doit être étudiée correctement, chantée correctement, devant le gourou. Le gourou doit voir si on peut ou non chanter correctement cette structure. Puis il vous amènera à la suivante. C'est comme ça. C'est guidé. C'est une musique élaborée. Le raga, c'est une musique élaborée. Cela nécessite donc une bonne formation donnée par le bon gourou. Sinon, c'est impossible. C'est en bref ce que je peux dire. La musique rag dali, comme nous l'appelons, elle n'est pas faite pour le grand public. Il faut avoir un peu d'oreille pour cette musique. Pour l'auditeur moyen, il est impossible d'apprécier la musique du raga. Mais là, si l'auditeur est un petit peu intelligent et qu'il a une bonne oreille pour la musique et qu'il écoute pendant un certain temps, et si le musicien peut la rendre un peu intéressante, sa présentation, eh bien, il va accrocher. Voilà, un jour, c'est une anecdote. À l'époque, je mâchais du pan, du bétel. J'enseignais un de mes élèves. Elle m'a dit, bon allez, allons chercher du pan. Alors nous sommes allés chez un panwala, un vendeur de bétel qui était à côté, et j'expliquais à l'élève comment s'articulait le multani. J'essayais de lui expliquer toutes les nuances du multani, un rag particulier. Et après 4 ou 5 minutes, je voyais que le panwala nous écoutait et ne faisait pas son travail. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Sab hot mazar. C'est très intéressant. Ça me donne du plaisir. Et bien voilà ce que c'est. Ça arrive. Eh bien, c'est pareil. Si vous réussissez à rendre votre musique intéressante, alors les gens peuvent écouter. Moi, je sens que c'est comme une prière. Lorsqu'on chante une note, Swari, c'est Shwari, comme on dit. Dieu est dans chaque note. On adore Dieu. Quand on chante une note, il y a cette inclination mentale qui est présente, c'est l'adoration. Et c'est avec cet esprit d'adoration que l'on essaye de chanter. Et je sens que si l'on chante de cette manière, les notes seront parfaites. Si votre esprit n'est pas dévoyé et que vous êtes suffisamment humble, ce sentiment sera automatiquement présent. L'ego et toutes ces choses-là s'en iront. Il n'y aura plus que de la pure musique. Et n'importe qui entendra cela touchera assurément son cœur. C'est ce que je crois. Bon, c'est peut-être quelque chose de très personnel, mais c'est comme ça que je tente de développer ma musique.
Est-ce qu'à l'intérieur, vous vous sentez toujours petit garçon ?
Oui, je me sens toujours ainsi. Mais parfois, le corps vous dit que non, vous n'êtes plus aussi jeune que ça. Le corps donne d'autres genres de signaux. Mais dans mon cœur, je me sens toujours jeune. La musique vous conserve toujours jeune, toujours. Et j'ai de tout petits enfants qui viennent me voir. Le plus jeune a 5 ans. Mon plus jeune élève, il a 5 ans. J'essaie toujours de jouer avec eux. Alors naturellement, à ce moment-là, mon âge aussi diminue. C'est agréable, on reçoit d'excellentes vibrations.
Retour à Mahim avec Françoise Roditi, installée en Inde et à Bombay depuis des lustres. Elle pratique la flûte avec le maître de la discipline, Pandit Hari Prasad Chaurasia. Quand elle parle de Bombay, c'est toujours avec l'enthousiasme de son arrivée.
Tu vas compter là, ici tu n'as pas besoin d'être à Bombay. Hein. Regarde avec les arbres comme ça, la mer, tu es en vacances. À part que comme tu es à Bombay, hein, il suffit. Avec tout le. Et puis tu as les concerts, tu as tout ce qui s'offre à toi de culturel, sans la pression d'une ville étouffant. C'est pour ça que je peux rester depuis des années ici.
C'est comme un village.
Un village, c'est un village. Là en bas, c'est médiéval. Tu veux aller en arrière dans le temps. Les femmes, comme ils préparent la bouffe, tout. Middle Age. C'est dingue, on pourrait rester des heures à regarder. Pendant la mousson, alors ici, différents spectacles. La mer, les vagues énormes. T'as l'impression que t'es plus là. Comme ça, c'est une super impression d'ailleurs. Apocalypse, la pluie, mais alors une pluie. T'as craché au canapé en disant bon ben Allah, Krishna, ils sont là, tu vois.
30 ans ici.
En Inde ?
Ouais.
Oui.
30 ans.
Ouais, peut-être un peu plus. Je discounte quelques années. Non, mais ça passe tellement vite. Hein? Peut-être un peu plus. Parce que je suis venue quand j'avais 18 ans. Et maintenant j'en ai 58. Voilà, faire le calcul. par le Magic Bus. Amsterdam, c'était à l'époque des hippies, alors la route était tracée. Trois semaines, on a mis trois semaines pour venir. Puis on l'a fait plusieurs fois ce chemin. Après on s'est arrêté en Afghanistan, bah, c'était là, on était tranquille, tu vois.
Donc le bus il disait Amsterdam, Bombay.
Amsterdam, Delhi. New Delhi.
Magic Bus.
Magic Bus, il s'arrêtait partout. Tu vois la route, tu vois, l'Iran naturellement, Mashhad, partout. Oh, c'est merveilleux. Non, c'était vraiment... c'est-à-dire que... Puis les gens, tellement gentils, pas de problème. Mais même avec tous les événements, tu sens pas qu'il y a tellement de problèmes. Tellement politique. Tu vois, et puis ça dépend de ton attitude aussi. Enfin, je sens que ici, par exemple, pourtant il y avait des problèmes avec les musulmans. Ou, là, c'est vraiment le quartier musulman en plein. Mais tu sens qu'il n'y a tellement pas... Tu vois, non, c'est pas des terroristes, c'est pas des islamistes. Pourtant, il y a eu quelques bombes à Maïm, il n'y a pas longtemps, tu vois, à la gare, partout, ça n'a pas... non, les gens n'ont pas voulu faire le jeu des terroristes en ayant peur d'abord, tu vois. Ça, c'est une très bonne attitude. Ils ont une bonne attitude. Bon, ils ont surveillé, tu vois, mais... Non. Et politiquement, quand tu sens aussi, ils ont une bonne attitude, vraiment. Je ne savais pas que c'était un pays qui allait aussi bien se diriger. Non. Ils sont d'abord indiens. Ils sont indiens, et puis... Mais ils acceptent toutes les religions, même maintenant... Dans les écoles, ils vont apprendre les religions des autres, tu vois. Ça va être des nouvelles lois. Que dans une école indienne, hindoue, disons, ils vont apprendre ce que c'est que le musulman, les musulmans, la religion, tu vois. Et puis le christianisme et le judaïsme. Ils vont apprendre les religions des autres, mais d'une manière intelligente, tu vois. Ça va être des cours comme ça, pour respecter. Ce qui est une très bonne idée. À 18 ans, ben oui, non, je prends le bus, je vais dans tous les pays, tu vois, qui l'ont, je crois. Et puis après, ben je suis revenue, oui. Et puis, je voulais apprendre la musique indienne de toute façon. C'est ça, c'est pour ça que je suis venue en Inde, parce que quand j'ai écouté la musique de Ali Akbar, Ustad Ali Akbar Sarod, player, j'ai tout de suite voulu apprendre cette musique. Je me suis dit, il faut que j'apprenne la musique. C'est une musique modale, une musique assez répétitive. Tu dois donner ton sentiment dans chaque note. Il faut que j'apprenne cette musique. Donc voilà. Après, je suis revenue, en ayant visité pas mal d'autres pays. Après, je suis revenue ici, bien déterminée à rester en Inde. Et puis alors là, bon ben... Je me suis mariée, tu vois, mais... Et puis j'ai connu le père de Madou, quoi, le père de... Je suis restée 4 ans dans le village.
C'était dans le Bihar.
Dans le Bihar. 5 ans, même.
Qui n'est pas l'état le plus évolué
non,
de l'Inde.
Non, c'est l'état... Alors, il y a plein de gundas, comme on dit, des malfaiteurs, un peu des voyous. Mais jamais, je faisais 5 ans, mais jamais j'ai eu une seule minute peur. J'ai jamais eu peur. Non. Et oui, non, mais dans le village, la vie était très peaceful. Très, très.
Ton mari, c'est un brahman.
C'est ça. Un brahmin. Il était brahmin. Bon, ben pour se marier, c'était très difficile. Mais comme il y avait la petite, donc tu vois, ça s'est passé. Parce que les castes en Inde, c'est très important. Il est mort, là, de toute façon. Au moins 10 ans.
Mais la femme du brahman, il était musicien aussi, dans le village, ton mari.
Oui, musicien.
Être la femme du brahman, ça veut dire quoi dans le village à l'époque?
Dans les années 78, 79, 80, jusqu'en 84, 85. C'est-à-dire que moi, étant une foreigner, hein, une étrangère, c'était toujours... c'est sûr que tu n'es pas comme eux. Mais le fait de jouer d'un instrument, d'apprendre quelque chose d'eux, c'est déjà pas touriste. Ouais, puis aussi, c'est une question de vibration, si tu t'entends bien, tu vois. On allait jouer dans tous les villages, tu vois, autour. C'est très bien. La vie des villages est typiquement indien, hein. C'est l'Inde.
Et la première fois que tu es arrivé à Bombay, c'était quand?
La première fois, c'était en 78. Je suis passé comme ça.
Les émeutes de 92, tu y étais?
Oui. C'était des émeutes incroyables. Mais à l'échelle indienne, c'est-à-dire que tu n'as pas vraiment peur. Il n'y a pas de cruauté. Enfin, ça peut. Hein.
Il y a quand même,
je ne suis pas illuminée comme ça en disant que.
Il y a eu quand même plusieurs centaines de morts.
Oui. Mais quand tu vis dedans, tu as l'impression bon, que c'est. Tu vois. Bon, si la bombe explose, c'est pas ton jour de chance, quoi. Tu vois, souvent j'ai pensé, par exemple, quand il y avait ces émeutes contre les musulmans, ils pourraient, mais très très facilement, et même sans émeute, venir ici, regarde, il n'y a pas de gardien, il n'y a rien. Et puis tout le temps, ils veulent même me voler ou n'importe quoi. Pour une femme seule en plus, tu vois. Et bon, il y a des amis, pas toujours, tu vois. Tellement facile, la proie, kidnapper même, tiens. Tout pourrait arriver, mais non. Parce que d'abord, ce sont des gens très, très, très religieux. Franchement, ils sont franchement religieux. Et ils pensent que c'est vraiment un mauvais karma pour eux. Tu vois, s'ils te font du mal, tu récoltes le résultat de tes actions. Ça ne vaut pas le coup, tu vois. C'est la foi et la religion qui les guident beaucoup à ne pas faire beaucoup de dégâts. Ils ont cette force. Et puis aussi, c'est un pays très, très spirituellement. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça m'a beaucoup intéressée. Spirituellement ouvert avec toutes ces vipassana, les bouddhistes, les pratiques de yoga.
Toi, tu es une des rares françaises à avoir acheté dans Bombay, parce que c'est impossible.
Oui, et James, tu vois, dans le registre, on est tous les deux, il y a nos deux noms, tu vois.
Parce que c'est impossible, sinon.
Ben, tu vois, moi, je me suis... Tu peux tout en Inde.
Mais ça prend du temps.
Tu peux tout. Tu peux avoir un visa d'entry. Entry visa. Tu as un entry visa, tu peux te le payer en allant au Népal. En connaissant, tu connais. On te le dit d'ailleurs. Tout est possible, monsieur. Everything is possible. Non, mais je t'assure, tout est possible. Tu peux tout faire. Tout. Tu peux te payer ton permis de conduire. Tout. Mais. Oui.
Babel Bombay avec Marie-Hélène Zera, Sharada Dvidevi, James Stevenson, Sunindra Bhumik et Françoise Roditi. Midi. Il est midi sur France Culture. Et jusqu'à midi et demi, c'est la dernière étape du Bombay Mix, Shakti Bombay. Shakti, dans la religion hindoue, c'est à la fois l'énergie vitale, mais aussi l'épouse, la déesse, la dimension féminine. Chaque fin de matinée, donc, place aux femmes, des femmes de milieux et de cultures différentes, qui sont toutes des habitantes de la ville et qui nous racontent leur vie. Tout de suite, direction le Cercle littéraire de Bombay, une institution de la cité. Nous y attendent deux professeurs d'université, Minal Kirsagar et Mangala Chidarchpande, deux femmes lettrées qui n'ont pas la langue de leur poche. La première à prendre la parole, c'est Mangala.
Moi, j'ai fait mes études à Elphinstone College juste en face, mais j'ai commencé à étudier le français à l'école. À cette époque, je n'ai pas vraiment choisi d'étudier le français, je n'aimais pas le français. Mais par la suite, parce que j'ai été élevée par ma grand-mère maternelle, et à l'époque, le français me paraissait comme une langue trop difficile que je n'arrivais pas à apprendre. Mais après la mort de ma grand-mère, je suis rentrée chez moi pour la première. J'ai vécu dans ma maison avec ma famille pour la première fois. Et mon grand-père était professeur de français. Il a fait ses études à Montpellier. Et c'est lui qui m'a inculqué l'amour de cette langue. Et il lisait à haute voix les poètes français. Ce qui m'a séduit, c'était la musique de cette langue. Et c'était l'année 1960. J'avais 14 ans. Et j'ai voulu apprendre le français pour sa musique, parce que quand on dit aux Français, nous aimons le français parce que c'est une langue mélodieuse, on ne nous croit pas, on rit. Mais il faut écouter, entendre les langues indiennes qui sont assez rauques, avec des voix comme beaucoup de R. Par exemple, le marathi, ce n'est pas du tout comme le français. Nous avons des sons comme au niveau des phonèmes, des sons comme T, D, N. Et voilà une langue si belle, si douce. Et donc, c'est cette poésie française qui m'a poussée à... Je veux apprendre cette langue. J'ai fait tout un effort. Quels étaient les facteurs de motivation? Aller en France. J'ai voulu voir ce beau pays. Mais ce rêve s'est réalisé seulement en 1973, quand j'avais 27 ans, parce qu'à l'époque, il n'y avait que deux bourses pour toute l'Inde. Et c'était très difficile d'obtenir les bourses. Et mon grand-père m'avait consolé. Il m'avait dit, vous pouvez lire Proust et Flaubert, même en Inde, et les apprécier. Vous aurez votre chance d'aller en France. Et puis, en 1973, j'ai eu cette bourse pour aller en France. Et par la suite, je suis rentrée en Inde et j'ai commencé cette étude, cette thèse de doctorat sur Baudelaire, critique et créateur. Et donc, vraiment, cela a été un parcours extrêmement intéressant. Et...
Oui, si je peux ajouter quelque chose d'intéressant que j'ai fait à Paris, c'est que j'étais là en 67-68. Ah. Et donc, j'étais à Paris en mai 68 et j'habitais un foyer, j'étais dans un foyer pour étudiantes internationales qui était sur le boulevard Saint-Michel, juste en face du Luxembourg. Et donc, j'ai assisté du haut de mon balcon à tout ce qui se passait dans la rue, les barricades, etc. J'ai entendu Daniel Cohn-Bendit parler à la Sorbonne. Mais bien sûr, en tant qu'étrangère, je ne me sentais pas tellement impliquée dans ce qui se passait. J'étais plutôt un témoin. Mais les jours où il n'y avait pas de barricades, où on ne jetait pas... tout ce qu'on jetait. De temps en temps, je pouvais circuler un peu dans les rues et assister à tout ce qui se passait. Voilà, donc ça, c'est une expérience, bien sûr, inoubliable. Moi, j'avais l'intention, je voulais absolument continuer à vivre à Paris, mais mes parents ont pris peur. Ils ont dit, les Français, la France, c'est un pays dangereux, il y a sans cesse des grèves, des émeutes d'étudiants, donc il faut revenir. Et donc je suis rentrée à Mumbai. Mais ensuite, j'ai décidé de faire ma maîtrise aux États-Unis pour la littérature française, parce que je voulais quand même découvrir le monde. Je savais qu'un jour, j'allais devenir jeune femme, femme bien rangée, c'est-à-dire être mariée, avoir des enfants. Et à ce moment-là, je savais que je ne pouvais plus voyager. Et j'ai réussi à avoir une bourse pour aller dans un collège aux États-Unis. Et c'est là-bas que j'ai fait ma maîtrise en littérature française. Et ensuite, je suis revenue à Mumbai et je commençais à enseigner à l'université de Mumbai. Voilà, et je suis toujours là, 40 ans après. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui apprennent, qui parlent français, mais à l'époque, non. Je sais que quand j'étais à Paris en 67, il y avait très peu d'Indiens. Et surtout, on ne voyait pas des femmes indiennes en sari. Donc, j'étais quelqu'un d'assez rare à cette époque. Et voilà. Et puis, quand je suis rentrée, il y avait peu de femmes qui enseignaient le français. Aujourd'hui, bien sûr, que la situation est complètement différente. Hein? Et il y a 3000 étudiants à l'Alliance française de Mumbai, mais quand moi j'étais là, il y avait une centaine, mais c'est tout. L'enseignement en Inde s'est assuré surtout par des femmes. Et depuis un certain temps, je ne peux pas vous dire depuis quelle année, mais quand je suis rentrée des États-Unis en 71, il y avait beaucoup de femmes professeurs. Donc cela ne posait absolument pas de problème.
Surtout pour le français, il n'y avait aucun problème parce que la plupart, comme Mina l'a dit, la plupart des enseignantes étaient des femmes. Mais les femmes maharashtriennes étaient rares à l'époque, n'est-ce pas? Parce que le français et l'anglais, surtout le français et l'anglais, c'était peut-être le monopole des femmes, des professeurs parsi, parce qu'ils appartenaient à une élite, ils avaient fait des études en France ou en Angleterre.
Comme le cercle littéraire ici a été fondé par des Parsis. Parce que les Parsis, c'était une communauté de gens extrêmement occidentalisés, qui faisaient des voyages à l'étranger que les autres communautés ne faisaient pas, et très cultivés. Et à l'époque, bien sûr, que la culture française était considérée comme étant l'apogée de la culture internationale. Et donc, il y avait beaucoup de Parsis qui... lisait des livres en français. Il y avait ici justement un cercle où on se réunissait tous les jeudis et on avait des discussions sur des livres français. Et cela, c'était une tradition qui a continué pendant de longues années. Maintenant, cela ne se fait plus. Mais Mangala et moi, toutes les deux, on s'est dit qu'une fois qu'on arrête d'enseigner à l'université, on va peut-être faire revivre cette tradition et réunir les gens pour des discussions livresques au moins une fois par mois. Donc on va voir comment ce projet va se réaliser.
Une littérature très riche littérature indienne d'expression anglaise, parce que l'anglais a été la langue dominante pour nous. Mais ce que je trouve très intéressant, même je ne m'arrive pas à expliquer cela, c'est que la consacration de l'étranger est nécessaire. Arundhati Roy, God of Small Things, quand on est accepté et admiré par à l'étranger, on est lu dans le pays, ce qui est assez triste. Chaque fois que ces écrivains sont... reçoivent des prix littéraires, etc. Ce sont des écrivains qui écrivent en anglais. Et donc cela occulte, cela ne donne pas assez de possibilités aux écrivains indiens qui écrivent dans les langues indiennes à être connus partout dans le monde, parce qu'il n'y a pas assez de traductions littéraires. Mais ce sont des vrais écrivains du pays. Et ils sont négligés, l'Occident ne les connaît pas du tout. Il y a aussi en marathi une littérature très riche, dans Maharashtra, parce que Mumbai fait partie de Maharashtra, et surtout l'écriture féminine, l'écriture des femmes. Il y a beaucoup de femmes écrivains qui nous ont appris à repenser le féminin et à montrer à la femme indienne la voie de sa libération, à supprimer peut-être le discours masculin et à découvrir sa propre voie. En Maharashtra, on peut vraiment dire que dans les dernières années, celle qui n'avait pas la parole a trouvé sa voie. Et ces femmes ont commencé à parler des problèmes, avec beaucoup d'hardiesse d'ailleurs. On a même allé jusqu'à parler du divorce. À quoi bon le mariage? Pourquoi le mariage? Ce qui est vraiment quelque chose de révolutionnaire. C'est une révolte, mais aussi très positive. Je crois que l'écriture féminine a un grand avenir à Bombay.
Mais je trouve qu'il est très important de cerner le milieu dont on parle, hein, parce que c'est extrêmement différent selon les classes socio-économiques. Et donc, des gens comme nous, la femme est extrêmement émancipée, la femme travaille, elle pense pour elle-même, elle ne donne pas tout l'argent qu'elle gagne à la belle-mère, elle décide de ce qu'elle veut faire de son argent. Ces questions ne la touchent pas vraiment parce que sa mère ou sa grand-mère ont déjà vécu ces problèmes et se sont libérées de la domination masculine. Donc, pour des gens comme nous, de notre milieu, ce n'est pas vraiment une bataille. Mais dans d'autres milieux, on sait très bien que c'est tout à fait différent, complètement différent. Par exemple, les gens qui travaillent dans la maison, par exemple, qui viennent nettoyer les maisons, ce sont pour la plupart des femmes qui sont battus régulièrement par leurs époux. Les époux sont souvent des alcooliques qui gagnent peu d'argent. La femme doit gagner la vie de toute la famille. En plus, elle doit subir le mauvais traitement donné par le mari. Et elle ne sait pas à qui avoir recours parce que la maison, le plus souvent, appartient au mari. Elle ne sait pas où aller, quoi faire. Donc elle continue à accepter sa situation.
Sur la carte de la région métropolitaine de Mumbai, publiée par l'Office de développement régional, la mention côte ouest de l'Inde s'inscrit en travers des territoires situés au-delà de la limite orientale. Aujourd'hui encore, certains préféreraient d'ailleurs qu'elle jouisse d'un statut de ville-État, comme Singapour. Oh, soupire-t-il, vous imaginez si on était comme Singapour? Alors Bombay ne serait plus obligée de traîner le boulet indien. Et ils s'en réjouissent comme un jeune couple qui viendrait enfin de perdre la tante grabataire, logée et soignée chez lui pendant un temps infini. Il en coûte d'établir des liens entre une ville et son arrière-pays. Les affrontements entre hindous et musulmans de 1992-1993, les attentats à la bombe qui ont frappé Bombay et les avions venus s'écraser sur le World Trade Center en 2001 ont chamboulé, en même temps que les paysages urbains, une certaine vision de la géographie. L'idée que ces îles-villes pouvaient vivre isolées des terres qui les jouxtent à l'est, l'Inde dans le cas de Bombay et le reste du monde dans celui de New York. Tout cela, nous semblait-il alors, ne nous concernait que de très loin.
la différence entre Calcutta, Delhi et Mumbai, moi, je me suis rendu compte que la femme bengalaise est beaucoup plus attachée à la tradition, à la famille. Et puis, elle a un amour beaucoup plus grand pour sa littérature, sa culture, etc. Puis, à Delhi, il n'y a pas beaucoup de respect pour la femme au nord de l'Inde. Les femmes ne peuvent pas sortir seules à Delhi, même aujourd'hui. N'est-ce pas? Après 6h30 du soir, on ne voit pas les femmes seules dans leur voiture, tandis qu'à Mumbai, nous avons beaucoup plus de sécurité.
Je crois que la femme indienne à Mumbai est
beaucoup plus émancipée que la femme du Nord.
Par exemple, on peut prendre le transport public à Mumbai, on peut entrer dans le train, dans le bus, etc., ce qu'on ne peut pas faire à Delhi. On risque de se faire pincer... toutes sortes de choses. Et même nous, hein, quand on est à Delhi, on n'ose pas prendre un taxi tard le soir. Il faut avoir sa propre voiture ou commander un taxi dont on est sûr, etc. Tandis qu'à Mumbai, si on ne va pas dans certains quartiers qui sont mal famés, eh bien, on peut aisément circuler même jusqu'à minuit. Moi, par exemple, je conduis ma propre voiture et je n'ai pas peur de conduire à Mumbai, même tard le soir, parce que je reste sur les grandes artères et il y a toujours du monde. Mais je ne pourrais pas faire cela à Delhi. Ça, je le sais.
Et moi, je voudrais dire une chose. Minal a parlé de la liberté de la femme indienne, comment nous sommes toutes les deux émancipées. Mais cette émancipation, nous l'avons trouvée au sein de notre famille. Nous sommes émancipées, libres, heureuses, parce que notre vie familiale est très stable. Et je crois que c'est un facteur très important.
Ça aussi, également, ce qu'étaient nos mères. Hein? Ma mère, par exemple, n'a pas travaillé dans un bureau, mais elle a toujours fait beaucoup de travail pour des organisations sociales. Elle était à la fois artiste et... c'est-à-dire qu'elle a toujours fait des choses en dehors de la maison. Elle ne s'est pas uniquement occupée des enfants, de la maison, du mari, etc. Et je crois que, dans un certain sens, c'était un modèle que j'avais devant les yeux. Et la mère de Mangala également, hein, elle a enseigné...
Elle a enseigné dans mon école. Et puis, nous ne sommes pas des femmes au foyer uniquement. Ouais. Tout en tenant compte, n'est-ce pas, de l'importance de la famille. Et puis, le fait que notre vie familiale est stable, je le répète, je crois que c'est très important. Cela explique le fait que nous sommes toujours, en pleine forme.
Ouais.
Cette sécurité que nous offre la famille, aussi nos maris, il faut le dire, c'est important.
Dharmendra passe chez moi pour m'inviter à son mariage qui sera célébré au village. Étourdiment, je lui conseille de bien profiter du temps des fiançailles, de se promener en ville avec sa fiancée. Il me regarde l'air sidéré. Je ne la connais même pas. En fait, il ne l'a pas revue depuis qu'il est allé chez elle avec ses parents. Et de toute façon, ils n'ont pas échangé un mot ce jour-là. Elle s'appelle Mayuri. Il a chargé Raju de lui parler. Dharmendra ne reverra celle qu'il va épouser que lorsque la jeune femme, relevant sa tête couverte du sari rouge, l'acceptera officiellement pour swami. Ils doivent se marier un mois après s'être vus pour la première et unique fois. Elle est belle, moyen. Qu'est-ce qui t'a plu chez elle par rapport à toutes les autres ? C'est surtout que ça tombe bien, répond Dharmendra en haussant les épaules. Il en a vu 5 ou 6 autres avant. Mais ça lui paraissait prématuré. À présent, la famille est installée à Mira Road. Il a largement la trentaine. Et après lui, il y a encore 3 frères à caser. Et surtout une sœur. Il serait grand temps que Raju se marie. Mais pour cela, elle doit attendre que l'aîné de la fratrie en ait fait autant. Mayuri s'est donc présentée au bon moment. et sans l'avoir vraiment regardée, sans avoir parlé avec elle, Dharmendra a accepté de la prendre pour femme. Qu'est-ce qui te dit que vous allez bien vous entendre tous les deux, que vous ne vous chamaillerez pas? On s'arrangera, il faudra bien. Elle aussi, il va falloir qu'elle s'y fasse. Ce n'est pas exactement comme s'il disait « je m'y ferai ». Sa famille au grand complet va devoir s'y faire. À l'instar de la grande majorité des habitants de Bombay, Dharmendra vit à l'abri du on protecteur et tyrannique à la fois. Il y a cependant des chances pour que Mayuri se fasse assez facilement à sa nouvelle situation. L'usage veut que la famille de la jeune fille offre au promis un costume et une alliance. Les parents de Mayuri ont demandé à Dharmendra de choisir le tissu d'un costume sur mesure. Conscient qu'il leur en coûterait plus de 6000 roupies, Dharmendra s'est rabattu sur un blazer, ce qui réduit considérablement la dépense.
On se dit, oui, le mariage, c'est pour toujours.
Et nous avons eu de la chance.
Pour notre génération, le divorce, etc., c'est plutôt rare. Pour notre génération, ça change.
Il y a aussi énormément. Il y avait beaucoup d'hypocrisie dans la génération de ma grand-mère. Ma grand-mère a été mariée à l'âge de 12 ans. Elle a eu son premier enfant à 13 ans. Et je crois qu'elle détestait les grossesses éternelles. Elle était contre le mariage. Je crois que la femme de cette génération a beaucoup souffert. Même aujourd'hui, il y a beaucoup, quand les femmes n'ont pas d'indépendance économique, il y a dans notre pays, parce que le mariage est pour la vie, il y a beaucoup d'hypocrisie. Nous savons très bien que dans certains mariages, la femme se résigne à son sort. Et nous avons aussi une philosophie où il n'y a pas de victime innocente. Et donc, la femme a toujours mérité son sort. Et donc, à cause de notre religion, la théorie du karma, les actes, une logique supérieure, tout s'explique par les actes dans une autre vie, la femme se résigne à son sort. Il n'y a pas de suicide en Inde. La femme souffre. Et puis aussi, pour être admirée, elle doit souffrir. La plupart des femmes indiennes qui accèdent à l'admiration, n'est-ce pas, des hommes, des enfants, c'est à cause de leur souffrance passivement subie. Ça, c'est triste.
Je crois
c'est
que
très
c'est,
triste.
C'est la génération précédente.
Non,
peut-être pas
nos enfants
génération.
Ne nous admirent pas comme nous avons vénéré nos grands-mères, etc. Elle a tellement souffert. Elle a traversé des épreuves et avec un sourire, sans rien dire. Ça c'est
pas.
Triste.
Mes
cela n'a pas tellement changé. Cela n'a pas tellement changé.
Mes fils me disent, tu fais plutôt souffrir les autres. Et que tu ne souffres pas.
Non, mais chaque fois qu'un homme indien dit, écoute, j'admire beaucoup ma mère. Un jour, je vous parlerai d'elle. Elle a beaucoup, beaucoup souffert. C'est toujours ça. L'admiration va avec la souffrance. Même les grands Vivekananda Gandhi ont parlé de cette capacité à souffrir de la femme qui a mené à son exploitation. Parce que les hommes disent, la femme est moralement supérieure. Elle sait souffrir, elle sait se sacrifier. Ça, c'est quand même, c'est dangereux.
Dans les centres urbains comme Mumbai, si on ne s'entend pas avec son époux, eh bien, c'est fini avec le mariage. Il y a beaucoup de liaisons en dehors du mariage et tout. Ça change, ça a complètement changé. Parce que nous avons surtout des filles dans nos cours. Donc, on sait exactement à quoi elles rêvent, à quoi elles pensent, quelles sont leurs ambitions. Mais le mariage fait partie de leur projet de l'avenir.
Mais pas forcément les enfants, parce qu'il y a des étudiants, il y a aussi des collègues, nous les connaissons, qui ont choisi de ne pas avoir des enfants. Pour évoluer, pour faire ce qu'elles veulent. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très intéressant. Le mythe de la maternité, vraiment, c'est pas nécessaire. Il y a une collègue qui dit, mais madame, je n'aime pas les enfants, ni mon mari. Et donc, avec la belle famille, il y a des problèmes, il faut mentir. On ne peut pas dire qu'on a choisi de ne pas avoir d'enfants. Oui. Cela est mal vu.
Oui, pas pour la
une
tradition
femme apparaît
indienne,
comme une
faut...
espèce de monstre si elle ne veut pas avoir beaucoup, beaucoup d'enfants.
Oui, il faut que la famille continue, que la lignée... ne s'éteignent pas, etc. Alors ça, c'est sûr. Moi, en tant que mère et grand-mère, j'ai des petits-enfants, donc je suis contente. C'est parce qu'on aime les enfants, c'est pas parce qu'on pense à la famille et à la continuation de la famille. Tu vois, par exemple, toi, tu aimerais avoir des petits-enfants parce que tu aimes les enfants, non pas parce que tu te dis que, voilà, il faut que... Il y a une continuité, etc. Hein? N'est-ce pas?
Oui, je crois.
C'est un choix personnel. Je crois que je n'aurais jamais dit à mon fils, oh, il faut que tu aies des enfants parce que tu es marié. Enfin.
Ça, je ne sais pas, parce que tu les as déjà.
Oui, mais je ne crois pas.
Parce que ma soeur souffre beaucoup parce que son fils, mon neveu, a pris la décision de ne pas avoir d'enfants. Elle a beaucoup souffert et après le mariage de son fils numéro 2, maintenant elle a un petit-fils et sa vie est comblée. A ce lien privilégié avec son fils. S'il y a des fils et des filles dans la famille, c'est le fils qui est choyé, gâté par la mère. Et la mère indienne, je la trouve très, très possessive. Voilà pourquoi elle est une mauvaise belle-mère. Et voilà, oui,
mais pas
la belle-fille est perçue comme une rivale.
Oui, tu parles de la tradition.
Mais même aujourd'hui, je vois.
Oui, oui, même aujourd'hui.
La belle-fille est perçue comme une rivale.
Oui, ça.
Le fils continue à aimer la cuisine de maman, il continue à consulter maman.
Oui, cette rivalité entre belle-fille et belle-mère, ça continue à des niveaux différents.
C'est pas toujours à les mêmes niveaux. C'est très subtil, mais cela continue.
C'est pas seulement les belles-mères, ce sont également les belles-filles qui sont en faute.
Mais nous n'avons pas des rapports conflictuels entre mère et fille parce que la fille se marie, on dit toujours, elle n'appartient pas à nous, elle est le trésor des autres.
Merci à Aminal Kirchagar et Mangala Sherchpandé, professeur à l'Université de Bombay. Bombay Mix, au cœur de l'Inde moderne. Coordination Cléa Chakraverti. Traduction Michel Slotowski et Julia Chirol. Texte tiré de l'Inde, Un million de révoltes de V.S. Nepal et Bombay Maximum City de Suketu Mehta, dit par Alexandre Sloto et Mylène Wagram. Prise de son et mixage, Philippe Bredin, réalisation Gilles Mardi-Rossian, une série d'émissions proposées par Michel Pomared, des émissions que vous pouvez réécouter en ligne ou podcaster. Vous connaissez l'adresse www.franceculture.com, rubrique Bombay Mix. Je vous donne rendez-vous dès demain matin à 9h05 pour continuer cette exploration de Bombay, avec notamment un gros plan sur les 160 millions de musulmans qui vivent en Inde, leur vie quotidienne à Bombay entre le drame de la partition avec la création du Pakistan et jusqu'aux attentats de novembre 2008. Bonne journée à l'écoute de nos programmes. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le journal de la rédaction.